RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, le rugby professionnel français est-il en train de prendre exemple sur le foot et ses pratiques, notamment en matière de transfert? Cette question récurrente a pris un peu plus d'ampleur cet été avec l'arrivée à Toulon de Chelsin Colby, alors qu'il restait pourtant 2 ans de contrat au Sud-Africain avec le Stade Toulousain. Ce n'est pas le seul exemple, on se souvient également du Kafikou, transféré en pleine saison dernière du Stade français au Racing. Alors quelle est la règle en vigueur? Faut-il tout autoriser ou bien tenter de réguler, notamment ces annonces de mutation qui se font de plus en plus précoces? On ouvre les débats dans quelques instants entre les potes. Votre podcast préféré où il sera également question du sursaut d'orgueil du Stade français. Enfin, victorieux ce samedi, alors que la situation a été très mal engagée contre Castres. Notre frelon, c'est Joris Segond, 2000 ouverture du stade, qui a sonné la révolte parisienne. Enfin, comme toutes les semaines, on vous donnera des nouvelles de la Coupe du Monde 2023. Aujourd'hui, gros plan sur le rugby africain. C'est vrai qu'on connaît les Sudaf, mais les autres nations un peu moins. On vous dira tout des 8 pays africains qui tenteront d'arracher leur billet pour la compète finale lors d'un tournoi de qualif qui sera organisé en France en juillet prochain. Les poteaux, les voici, les voilà, avec dans l'ordre d'apparition à l'écran le toujours sémillant Denis Charvet. Bonjour Denis.
Bonjour monsieur.
Les artistes associés également, Paturo, Templier et Amish sont de la partie.
Bonjour, salut.
Salut. Salut. Et la voix de la sagesse sera incarnée par Manu Massicard. Bon. Je ne sais pas, c'est dans le mot la voix de la sagesse.
Je
ne
sais pas si c'est le mot. Vous m'avez enfin reconnu à la hauteur de mes qualités. Merci messieurs.
Le patron de Midi Olympique évidemment avec nous comme tous les lundis. Tout de suite sans tarder, voici la première mêlée des poteaux.
L'action, mêlée, jeu.
L'affaire a fait grand bruit en plein cœur de l'été, un transfert, un vrai, avec des gros sous à la clé, une star planétaire comme sujet de réflexion. Alors non, on va pas vous parler de Léo Messi, mais plutôt de Colby, la star sud-africaine du Stade Toulousain, qui a donc choisi au mois d'août de quitter le stade pour la rade, alors qu'il lui restait 2 ans de contrat, affaire qui a secoué le petit monde de l'Ovalie, Jeff, qui n'était vraiment pas habitué à traiter ce genre de sujet.
Hein. Ouais, effectivement, t'as entièrement raison Christophe, puisque tu le disais, ça a fait beaucoup de bruit, de ramdam, pour employer un mot que j'aime bien, car on parle ici d'un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs joueurs de la planète. Par le passé, c'est vrai, il y a eu d'autres transferts un peu désormais assez récurrents l'année dernière, notamment en top 14, avec celui évidemment de Gaël Ficou, parti du Stade français au Racing 92, où désormais il est capitaine de cette équipe. Mais là encore, c'est un cran au-dessus avec Colby, notamment en termes de montage financier, d'éléments aussi sportifs. Colby, tu l'as dit, était sous contrat pour encore 2 saisons avec le Stade toulousain, mais il s'est finalement engagé en plein été au RCT alors que lui était à l'autre bout du monde avec l'Afrique du Sud, et ce, pour le plus grand bonheur du RCT. Toulon est ravi de renforcer ses lignes arrières et vu le spectacle de vendredi soir de la part des Toulonnais, ça va faire du bien un joueur comme ça. Le joueur, lui aussi, voulait toucher davantage d'argent à Toulouse, refus de ses dirigeants. Il a trouvé une porte de sortie fort intéressante d'un point de vue financier. Et pour le club de la Ville Rose, ce départ était aussi un bon moyen d'affirmer son autorité. Le club est plus fort que ses joueurs, même un champion du monde, comme c'est le cas pour Colby. Et aussi, là, le moyen de récupérer une grosse somme d'argent, entre 1 et 2 millions d'euros. Un montage financier savamment réalisé par le club de la Ville Rose avec le RCT, ce qui va permettre au président Didier Lacroix et au manager Hugo Mola d'avoir encore plus de liquidités, de résolver des fonds, puisqu'il y a un vrai déficit comme dans tous les autres clubs, mais aussi d'attirer des nouvelles recrues pour la saison prochaine et d'avoir encore une équipe plus compétitive grâce au départ d'un seul joueur.
Colby, et qui fera ses débuts avec Toulon dans combien de temps?
Ah, ça c'est une bonne question, parce qu'il pourrait revenir au mois d'octobre, mais est-ce que comme les autres internationaux potentiels sud-africains, il ne sera pas là seulement après les tests du mois de novembre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il joue même pas avec l'Afrique du Sud parce qu'il est blessé.
Bon, ça fait cher tout ça hein, pour un joueur qui arrivera peut-être au mois de décembre. Denis, est-ce que tu as été choqué par ce transfert ou en tant que fan de foot, tu t'es dit ça y est, le rugby fait enfin comme le foot, on va se régaler, il va y avoir des grosses sommes, on va parler de transferts tout au long de l'année.
Il faut pas être naïf, non. J'ai pas été choqué parce que ça en prend la tournure, mais pas des proportions moindres, évidemment. C'est pas des sommes astronomiques comme dans le football, mais en même temps.
Parce que c'est pas la même économie. Devient,
oui, c'est pas la même économie, mais 2000, je sais pas comment il va payer le transfert plus les années de contrat qu'il avait à Toulouse, mais bon, ça fait cher, quoi. Évidemment que ça fait cher. Après, ce qui nous sauve nous dans le rugby, c'est le salary cap. Donc on peut encore penser que ça va nous sauver combien de temps, j'en sais rien.
Sauf que les indemnités, on en parlera dans quelques minutes.
Oui, les indemnités qui rentrent pas dans le salary cap, c'est justement pour ça, mais qu'on peut se permettre d'acheter Colby. Mais après. Ça a rangé tout le monde. Je crois qu'il faut pas être non plus. Tout le monde sait que Toulouse a des problèmes d'argent. C'est venu au bon moment. Ils vont pouvoir combler un petit peu le trou, le déficit. Et de l'autre côté, Toulon, ils peuvent se le payer. Ils ont le luxe de se payer ce joueur. sincèrement, c'est un joueur hors norme. Donc, il va faire du bien à Toulon s'il joue, mais il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas.
Donc, ça va arranger tout le monde, oui. Tout le monde du rugby. Manu, tu es d'accord avec ce que vient de dire Danu?
Pas tout à fait, parce qu'on verra si Toulouse a fait le bon choix l'année prochaine au moment de compter les titres et en fin de saison. Il n'y a que là où on verra si véritablement le Stade Toulousain peut se passer de son joueur phare, d'un de ses joueurs phares, en l'occurrence Colby. Après, financièrement, évidemment que ça arrange tout le monde, mais ça soulève quand même aussi une part de problème. Jeff en parlait sur le salary cap. Si la première année risque d'être indolore pour le RCT, puisque le montage financier fait que le salaire de Colby échappe en partie au salary cap, il n'en sera pas de même sur l'année 2. Et pour le coup, il faudra respecter le salary cap et je ne sais pas comment ils vont faire.
Mais de toute façon, il y a le même problème au Racing quand Ficou est assigné au Racing. On est dans le même cas de figure. Donc on a effectivement.
Oui, mais c'est pas forcément une bonne chose.
Ah non, je dis pas que c'est une bonne chose. Non, d'ailleurs on l'avait évoqué ici. Hein. C'est pas une bonne chose, voilà. Mais
Et puis ça veut dire plus de mouvement, messieurs, parce qu'on s'interroge. Il y avait pas de transfert comme au foot, donc ça veut dire que les rugbymen signent un contrat et allaient au bout. Donc
oui,
passer souvent 3 ans minimum dans un club, voire plus. Donc là, ça veut dire. Alors il y avait déjà moins d'appartenance au maillot, beaucoup plus de mouvement, ce qui est un peu cher à notre rugby, hein, d'avoir des hommes qui restent longtemps dans un club et voilà. On s'identifie à eux, enfin les supporters.
Non, mais pour l'identité du club,
là, ça veut dire que ça va bouger et ça va bouger encore plus, quoi. Alors,
Si on reprend les faits entre Ficou et Colby, il y en a un qui mute en cours de saison qui met un gros coup de canif dans le contrat et dans le pacte de confiance avec ses partenaires. Colby, c'est différent. Colby part en cours de saison. On peut considérer, fin de la saison, et on peut considérer aussi que au-delà de l'affaire financière, c'est aussi une manière de ramener le calme et de garder un vestiaire apaisé, puisque ça faisait un moment qu'il y avait que Colby n'était plus pas le bienvenu, mais il faisait moins l'unanimité dans le vestiaire toulousain.
C'est ça qu'il faut mettre en avant.
Il demandait beaucoup de choses.
Il était très exigeant, il demandait beaucoup de choses, il voulait être payé comme le meilleur joueur du monde. Voilà, à partir de ce moment-là, comme je pense que tu peux pas le garder. La vérité, c'est que tu peux pas le garder après.
Oui, mais alors c'est un exemple qui risque de faire des petits dans les années à venir.
C'est que vous payez un joueur très cher et qui est pas souvent là aussi. Il y a une vraie logique en top 14.
Mais tu dis ça, mais Toulouse, elle s'en est bien servi.
Oui.
Il sera rendu service en fin de saison.
Sauf que il repart en sélection, et après, il y a la Coupe du Monde qui va arriver au fil du temps. Et c'est vrai que les internationaux étrangers, et notamment sud-africains, les Argentins, c'est pareil. Il y a une logique dans plein de clubs, c'est de se dire pourquoi on paye des joueurs aussi cher alors que la moitié de l'année.
Oui, alors moi, je veux te répondre. Je pense que quand même, dans le calcul de Toulon, il y a se dire de prendre un joueur hors norme qui peut te faire gagner des matchs. Ce à quoi il n'avait pas forcément Toulon dans leur effectif. Et là, t'as un joueur hors norme. C'est ce qu'évoquait Manu, je crois, tout à l'heure, ou toi, et Christophe, de dire que ce gars-là, on va voir en fin de saison si Toulouse, il manquera Toulouse ou pas.
Non, mais Bernard Lemaître avait besoin d'un gros joueur, d'un grand nom pour assurer son monde, pour remplir son stade, et puis pour permettre à Toulon de franchir une nouvelle dimension, un palier.
Et calmer les supporters aussi.
Exactement, c'est fait. Mais est-ce que il va avoir le retour sur investissement? J'en suis pas sûr. Voilà. Et puis, il faut aussi se poser la question si sportivement, Colby, le style de jeu de Colby peut correspondre au style de jeu du RCT. Parce que le Colby de Toulouse risque d'être différent du Colby de Toulon.
Alors, le marché du rugby professionnel est bien moins développé que celui du foot. Il y a quand même des joueurs bankable, notamment en Angleterre ou dans les pays du Sud. C'est un bien pour l'économie du rugby, selon vous, l'économie du rugby du Nord, évidemment, de l'Europe, ou c'est plutôt une évolution qui risque d'être néfaste pour le rugby, selon vous?
Ce qui est sûr, c'est que ça va se reproduire, a priori, de plus en plus, à part s'il y a une législation qui va encadrer ça. Il faut rappeler aussi que la différence avec l'Angleterre, c'est qu'ils ont un salary cap qui est plus bas, mais ils ont le droit à deux marquee players. Des marquee players, ce sont des joueurs qui peuvent être payés comme vous voulez, en fait.
Ce qu'on devrait mettre en place en France.
Et là-dessus, il y a un vrai débat. Est-ce que l'opportunité, ce serait pas de se dire pourquoi on paierait pas deux joueurs autant qu'on veut et le reste, on.
Mais je crois que c'est une bonne solution. Hein. À terme, il va falloir envisager de copier les Anglais, qui ont souvent des bonnes idées, non?
Non.
On sort juste de la crise du Covid, sinon. Il y a eu plus de sous il y a quelques mois. Mais non, mais il y a des prêts au niveau de l'État, il y a des choses comme ça.
Oui, mais arrêtez d'être naïf aussi. On sait très bien qu'il y a quelques joueurs du top 14, ils sont payés différents. Il y a des arrangements.
Donc,
autant que ce soit clair, c'est tout.
Denis, on sort du Covid, Wilfried l'a dit, l'année dernière nos clubs parlaient de faillite et aujourd'hui on est en train de faire n'importe quoi pour des joueurs stars. Je sais très sincèrement, oui, si je ne sais pas si on en a besoin aujourd'hui.
Mais Manu, si tu as deux ce joueur, si tu dis il y en a deux,
je pense que c'est déjà le cas, Denis. C'est déjà le cas.
Mais oui, mais au moins ça sera plus clair, il me semble.
Alors, il y a évidemment les transferts hein, qui sont en train de se mettre en place, mais il y a aussi les mutations qui interviennent tous les ans sans qu'une indemnité de transfert ne soit versée. Là aussi, les choses évoluent. Jeff, avec des annonces qui se font de plus en plus précocement. Il y a quelques jours, on a appris par exemple que Antoine Astoy, le jeune demi d'ouverture de la section paloise, allait rejoindre La Rochelle à l'issue de la saison, alors que la saison venait à peine de débuter. Elle était peut-être même pas débutée. C'est pas la mutation qui gêne, hein, mais plutôt cette annonce qui intervient de plus en plus tôt et qui est plutôt susceptible de déstabiliser à la fois les joueurs et les équipes. Quelle est la règle à ce sujet?
Déjà, juste petite parenthèse, le premier point, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. La Rochelle ne peut pas officialiser un joueur qui signe après contrat.
Ça a été confirmé, me semble-t-il, par les clubs, non?
C'est la section paloise qui a confirmé le départ de son joueur. Il n'y a pas eu de signation concrète, précisé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il... Parce que ça se fait plus tard dans la période de mutation. Là, en ce moment, ce qui est sûr, c'est que les joueurs libres en fin de contrat peuvent, depuis cet été, depuis le 1er juillet, discuter avec les clubs intéressés, signer pré-contrats où ils veulent, et des pré-contrats qui seront ensuite validés par des contrats en fin de saison à partir du mois de mai. Depuis le 1er juillet, c'est important parce que s'il y a des joueurs qui sont encore sous contrat pour 2023-2024, eux, on n'a pas le droit de les attaquer. Il faut attaquer des joueurs, les clubs peuvent attaquer des joueurs qui sont en fin de contrat, dans leur dernière année de contrat depuis le 1er juillet. Mais c'est vrai que le marché est très agité partout. L'année dernière, c'était plus calme, notamment en raison du Covid. Mais là, on repart sur des bases très élevées puisque tous les clubs prennent des rendez-vous. Tous les clubs ont déjà quasiment trouvé des accords avec des internationaux, pas des internationaux. On parle de La Rochelle qui est très active sur le marché des transferts. Et il y a des clubs qui aussi ont énormément de fins de contrat à boucler. On pense au Racing, il en reste une vingtaine. Au Stade Français, il en reste 16. Il y a beaucoup de clubs comme ça. Et tout le monde regarde déjà vers l'avenir. Et tout le monde a déjà son idée désormais de qui jouera pour son équipe la saison prochaine. Et c'est vrai que c'est un peu UBS.
C'est contre tous les valeurs du rugby. C'est incroyable qu'on soit arrivé à accepter d'avoir une règle comme celle-là. Ça me semble, c'est fou. Et moi, j'ai du mal à le comprendre. Alors, moi, je suis à l'ancienne parce que je viens d'une autre génération.
T'es contre ça, mais t'es pour le marquee player.
Oui, mais c'est différent, le marquee player.
Ça fait des différences dans le vestiaire.
Pas du tout.
Si.
Bref, les différences, ils le savent, Manu. C'est très bien que tous les joueurs savent qui touche quoi.
Je te taquine, oui. Denis.
Non, mais je trouve fou qu'un joueur qui est dans un club, tous ses coéquipiers savent que de l'année prochaine, mais il ira dans un autre club.
C'est un peu déstabilisant d'ailleurs.
Mais très déstabilisant.
Wilfried, à la fois pour le joueur, pour les coéquipiers, pour le club qui perd son joueur. Enfin, c'est terrible ça.
C'est double tranchant. Ça peut être clair aussi. Et ils sont habitués. Enfin, ça fait des années que c'est comme ça. Et moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est même pas des joueurs, c'est des entraîneurs. Souvenez-vous, Laurent Labitte et Laurent Travers, l'année où ils vont être champions à Castres, là, la même période, là, l'automne, là, on sait déjà qu'ils vont partir au Racing. Ils l'ont annoncé, parce que les tractations, elles se font des mois avant, et pour calmer tout le monde, les rumeurs, les choses comme ça pollue pas. Voilà.
Mais un jour,
Laurent l'avait annoncé, jour, mais les joueurs le disent pas. Mais
on va rigoler
un jour. Denis, ça a pas l'air de les déranger, les rugbymen.
Oui, d'accord. Alors on va rigoler un jour si, par exemple, Astoy joue contre La Rochelle pour une qualification et qu'il a un but à mettre à la dernière minute.
Denis, ça arrive tous les ans, malheureusement.
Ça arrive, mais ça pas à la dernière minute avec une pénalité à taper entre les poteaux.
Est-ce que vous pensez que là aussi, il faudrait peut-être réformer, pourquoi pas copier sur le foot, instituer des périodes de mercato?
Le problème, c'est qu'en rugby, il y a du mercato toute l'année.
La permissivité maintenant, elle est ouverte.
Donc il faut dire non au transfert de joueurs pendant l'année. Et déjà, ça, c'est la première des bases. Un Ficou qui part du Stade Français,
c'est impossible. Il faut que ça soit arrêté.
On arrête.
Mais ça, je vous rappelle, messieurs, que c'est une initiative du comité directeur de la Ligue
nationale. Oui, c'était en raison du Covid.
En raison du Covid, qui a eu une période
supplémentaire. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière?
Ok pour le Covid, d'accord. Après, maintenant, on arrête.
Et comme disait Wilfried, tous les clubs affirmaient vraiment, sincèrement, tous les clubs disaient qu'ils avaient des difficultés financières, qu'ils étaient tous au fond du seau, qu'ils avaient des déficits. Et là, ça repart de plus belle avec des contrats, des contrats qui sont intéressants quand même.
L'exemple que j'ai, on a parlé longuement de Colby. Alors c'est très bien, ils ont des ressources à Toulon, mais moi j'ai fait une conférence de presse téléphonique avec Bernard Lemaître à la fin de la saison dernière. Il annonçait 15 millions d'euros de déficit à Toulon. Donc très bien, ils ont des ressources, mais donc on comprend pas tout. Mais tant mieux pour eux si
ils vont mieux pas à tout comprendre.
Ça arrange tout le monde comme vous avez dit, mais voilà. Et il y a des clubs qui ont encore des PGE, qui doivent rembourser sur les prochaines années. Donc tant mieux si on trouve des ressources, tant mieux. Mais on comprend pas tout comme vous dites.
Sur le profil de de Bernard Lemaitre et d'autres mécènes du rugby français. Ils assument les déficits. À la limite, moi, ça me dérange pas. Ils se sont engagés à combler les trous en fin de saison. Certes, l'économie, c'est une économie qui est virtuelle, mais ils assument. Ils mettent pas le club en danger. Tant qu'ils sont là, ils mettent pas le club en danger.
Oui, enfin, c'est biaisé parce que le jour où ils s'en vont, le club il sera mort. Hein.
Mais Denis, ça fait des années que ça dure comme ça. Et c'est même dans la culture du rugby. Avant le professionnalisme, c'était comme ça. Je te dis pas que c'est bien, mais on peut pas s'en émouvoir aujourd'hui.
D'un côté les Montpellier, les Racing, les Toulon, et de l'autre côté les Toulouse, les La Rochelle, les deux modèles différents du rugby en fait.
Bien sûr.
Bon, bah si
clairement, est un encore un autre modèle.
Tout va bien pour vous, messieurs. Continuons comme ça.
J'hésitais à le placer, Denis.
Non, mais clairement, c'est un autre modèle. C'est un troisième modèle.
La troisième voie. Retour au terrain, messieurs, maintenant, et au top 14. On s'inquiétait la semaine dernière de la situation du Stade français et du Stade Rochelet. Défait à trois reprises en trois matchs. Ça va mieux pour les deux stades, qui ont retrouvé donc ce week-end le chemin du succès. Sans trembler pour La Rochelle, qui n'a fait qu'une bouchée de Biarritz. Plus difficilement, quand même, pour le Stade français, tombeur du Castres Olympique. Paris qui a fait preuve de caractère après s'être retrouvé réduit à 14 dès le début du match. Infériorité numérique qui n'a pas empêché les Parisiens de s'imposer 34-10 contre le CO. Et l'un des grands bonshommes côté parisien se nomme Joris Segond, impeccable face aux perches adverses, mais pas que. Prestation de haut niveau qui lui vaut le titre de frelon des poteaux.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Joris Segond qui, comme beaucoup de joueurs parisiens, avait démarré la saison plutôt mollo. Il s'est réveillé ce samedi, rappelant à notre bon souvenir qu'il est un jeune ouvreur pétri de qualité. On s'en était rendu compte en fin de saison dernière, au point que Galtier l'avait d'ailleurs appelé à disputer la tournée en Australie. Tournée, malheureusement, pour lui, jouer en costard cravate, Wilfried, sans qu'on lui explique pourquoi. Il n'avait pas eu droit à la moindre minute de jeu. Hein.
Ouais, peut-être parce que c'est le très haut niveau, on a peut-être pas besoin d'expliquer, hein, de justifier ses choix. Alors c'est vrai que c'est dommageable, hein, mais il est venu, il a humé l'air du 15 de France, comme d'autres avant lui. Il faut passer des paliers en bleu avant d'avoir sa chance. À lui de montrer maintenant avec le Stade français qu'il mérite d'être rappelé. Alors, à l'image de son équipe, tu l'as dit, hein, ça a été dur pour Joris Segond en début de saison, avec deux claques prises face au Racing à domicile et à l'UBB. Il n'était pas titulaire à Toulon, avec une équipe parisienne très remaniée. Samedi dernier, enfin avant-hier, enfin ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, évidemment. Hop là, pirouette, on repart. On a retrouvé le Joris Segond efficace de l'an passé. Il a donné de l'air à son équipe grâce à son long jeu au pied dont il nous a habitué, hein, avec lequel il était précis pour aller jouer sur les côtés, pour transmettre au niveau des ailiers. Il marque 15 des 34 points du Stade français à plus de 83% de réussite, on le signale. Hein. Bref, un gros match pour un joueur qui a véritablement explosé l'an passé, un deuxième meilleur réalisateur du top 14 derrière Urda Pileta, 311 points pour Joris Segond l'an dernier. Ça fait une jolie moyenne de 12 points par match, hein. C'est précieux pour son équipe et surtout une saison pleine parce que Ferrar, il a participé à tous les matchs de top 14 du Stade français l'an passé, 27 matchs avec le barrage, 23 titularisations, ça montre sa régularité, mais l'ancien joueur d'Aurillac doit maintenant passer un cap, peser dans les grands moments, parce qu'on se souvient aussi qu'il a vécu un match compliqué en barrage face au Racing, hein, au mois de juin dernier. Et
tous
ensuite, on verra pour les
vécu,
Bleus.
Hein.
Ouais, et ben, quand on recule, c'est pas facile, mais dans ces moments-là, ils sont aussi jugés. Et pour les Bleus, on verra. Hein. Il y a du Ntamack, du Jalibert, du Carbonel, du Astoy. Il y a une concurrence incroyable, mais le chemin est encore long, deux ans de la Coupe du Monde. Des blessures, des méformes. Tout peut arriver, même s'il part de loin. Quand même.
Il y a pléthore au poste de numéro 10 en France. On va pas faire la fine bouche. Ça a duré tellement d'années sans qu'on ait de 1000 ouvertures de qualité. Est-ce que vous croyez, Denis, est-ce que tu crois en ce petit Joris Segond?
Il est jeune encore.
Que le Stade est allé recruter à Aurillac, ce qui n'est pas dans les usages du club parisien, en Pro D2 à l'époque. Hein.
Oui, mais il a de grosses qualités, on connaît son profil, hein. Gros jeu au pied, gros buteur, 24 ans, il est encore jeune. Il lui faut apprendre encore dans le jeu d'attaque, hein, de prendre la ligne, d'avoir plus de confiance en lui-même, de plus prendre le jeu à son compte. Je crois que c'est ce qui lui manque. Même si, comme il a dit Wilfried, il a joué toute la saison dernière, donc il est quand même titulaire. Il y avait un Sanchez qu'il a mis sur le banc qui était catastrophique. Donc voilà, il y a de la concurrence quand même à son poste, mais il a réussi à la mettre de côté. Donc c'est dire que c'est un bon joueur. Après, le match contre Castres, il n'est pas significatif dans le sens où Castres a été catastrophique. Alors tu vas me dire, c'est parce que le Stade français a été au-dessus. Oui, effectivement, ils ont été plus au-dessus dans l'agressivité, mais c'est ce qu'a manqué à Castres, qui d'habitude fait preuve d'agressivité, et là je comprends pas. 15 contre 14, ils ont été finalement, ce carton rouge a été bénéfique au Stade français.
Mmh. Ouais.
Parce que tout d'un coup, ben, ils sont resserrés, ils ont trouvé des ressources pour aller, ben, écraser cette équipe de Castres qui était, complètement en dessous de sa valeur. Sans cocotte, il faut le dire, et Urda Pileta, l'ouverture. Mais chapeau, chapeau au Stade français, parce qu'il a fallu cette victoire. Mmh. Stade français sous pression, avec une obligation de l'emporter. Revenir dans un match alors que t'es à 3 minutes, t'es à 14, chapeau à eux quand même, voilà.
L'infériorité numérique, finalement, c'est plus un empêcheur de remporter un match. Manu, on l'a vu à plusieurs reprises. Là, quand même, c'est quoi? 78 minutes jouées à 14 contre 15.
Ouais, ça fait, rappelez-vous, en début de saison, deuxième journée, je crois, que la section paloise s'impose à domicile
contre
Lyon, où Lyon avait déjoué. Bon, là, le scénario est différent parce que le CO avait, même si c'est jamais facile de jouer le CO à l'extérieur, dans un match de Muerte, dans une position d'attente qui va très bien au Castré, les Lyonnais avaient, c'était sans doute vu un peu plus ambitieux et beau qu'ils n'auraient dû l'être face à la section. Mais effectivement, ça avait remobilisé la section et ça a remis le Stade français. Enfin, ça a aussi boosté le Stade français. Tant mieux pour eux, hein, parce qu'ils en avaient besoin. Je suis pas sûr qu'ils soient sortie d'affaire. Non. Je suis pas sûr que les problèmes qu'on connaît tous au Stade français soient désormais réglés. Je suis très content de voir Joris Segond relever la tête, parce que c'est un garçon qui mérite. Comme l'a dit Wilfried, il a sans doute eu du mal à digérer ses vacances en Australie. Écoutez, il faut le souhaiter le meilleur maintenant. Hein.
Et ce qui est intéressant pour le Stade français, c'est qu'il y a un petit jeune aussi derrière, Léo Barré, qui est aussi plein de promesses à l'ouverture.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils ont un bon duo. Nico Sanchez, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup, honnêtement, cette année au Stade français.
Juste très vite pour Joris Segond. Ouais. Pour Joris Segond, on le connaît cartésien. Comme tu disais, Denis, on le connaît cartésien, jeu au pied. On voit, il est bon là-dessus maintenant. On l'attend plus sur la ligne d'attaque pour s'il se hisser au niveau des Jalibert, des Ntamak, de peser plus dans le ballon en main. Parce que au pied, il y a pas de souci. Il est très fort maintenant. On l'attend plus offensivement.
Très bien. Joris Segond dans les coéquipiers, le manager en loue les qualités. Jojo nous a donné de l'air et des points quand il est en confiance et tout bénef pour l'équipe, a expliqué Alex Araté, le centre parisien. Quant à son patron, Gonzalo Quesada, il était pleinement satisfait par la prestation de tous ces hommes. On l'écoute.
Tous les joueurs, ils ont rentré très contents, très fiers au vestiaire. Ça permet de rentrer dans un cycle de confiance, de stabilité qui nous permet de mieux bosser. On n'était pas si inquiets que ça en interne, même si on était conscients de nos performances très moyenne, et donc je pense que là ça va valider beaucoup de choses.
Voilà, ça va valider beaucoup de choses.
Il a raison, Gonzalo. Sinon, la confiance aujourd'hui, mais ça suffit pas. On le sait très bien, s'il y a des limites. Maintenant, ils vont pouvoir travailler, repartir. Ça va être intéressant le prochain match. Je sais pas où est-ce qu'ils jouent.
C'est samedi prochain à Brive.
À Brive, donc on va voir la performance. Qui est quand même une grosse équipe à domicile.
Et très vite, messieurs, on a donné le frelon à Joris Segond.
On aurait pu donner
le top 14 a tweeté aujourd'hui les 29 plaquages de François Cross. C'est la deuxième meilleure performance de ces 10 dernières saisons. Ouais. Et François Cross, c'est un mec de l'ombre un peu, mais alors attention quand même.
Et le triplé de Carbarlo.
Exactement, avec La Rochelle. Mais enfin, face à
eux. Bon,
c'est
Biarritz. Pierre, ami, je suis
Biarritz olympique est arrivé un peu les mains
en haut du guidon.
Il faut bien le dire. Mais effectivement, ce match entre Toulouse et Clermont a été de toute beauté. Il y en a certains qui auraient mérité amplement le titre de frelon du week-end. Tout de suite, messieurs, des nouvelles de notre Coupe du Monde. Et oui, elle s'approche et ça nous donne des envies de danser de French Cancan. Pierre Amiche fait son entrée tout en ruban.
Les jambes, le pied en l'air.
Et c'est dommage, c'est que de la radio, mais vous verrez ce que je fais avec les jambes, c'est hyper impressionnant.
Magnifique. La Coupe du Monde 2023, dont on connaît déjà 13 des 20 nations qui y participeront, reste donc 7 billets à délivrer. L'un d'eux reviendra à un pays africain, celui qui remportera en juillet prochain le tournoi de qualification Afrique, qui se déroulera en France et opposera les 8 meilleures équipes africaines du moment. Pierre, je sais que tu es un homme heureux, hein, parce que tu vas pouvoir assister à toutes les rencontres de ce tournoi, et ça rien que ça, c'est du bonheur. Il y aura peut-être quelques purges dans ce tournoi, mais il y aura aussi de belles surprises. Parle-nous un peu de la hiérarchie du rugby africain. On connaît évidemment les Sudaf qui sont largement au-dessus de tout le monde. Le rugby africain, est-ce qu'il progresse? Quelles sont les nations qui prétendent à ce billet directement?
Eh bien, il y a encore 8 pays qui peuvent espérer rêver même d'une aventure mondiale. Il y a les équipes qu'on connaît bien déjà parce qu'elles ont participé à une Coupe du Monde par le passé. C'est le cas par exemple de la Namibie qui défiera le Burkina Faso. Faut quand même expliquer très rapidement que la Namibie n'est peut-être plus la grande équipe africaine qu'elle a été, considérée depuis près de 20 ans comme la deuxième équipe africaine derrière les Springboks. Mais cette nation n'a pas loupé les qualifications depuis 1999 et vivrait très mal un échec sur le tournoi. Mais il faut dire aussi qu'elle était très mal embarquée dans les matchs de qualification parce qu'ils ont été battus chez eux par la Côte d'Ivoire. C'était l'une des plus grosses surprises du tournoi pré-qualificatif. Et elle doit sa présence dans le Final 8 grâce à un large succès sur Madagascar dans le match de la dernière chance. Ça fait partie des gros morceaux. Face à eux, ce sera la nation la plus faible de ce Final 8. Les Burkinabés ont pris deux énormes roustes en poule, un 101-3 et 95-5 face au Zimbabwe. Et c'est le forfait de la Tunisie qui avait eu des cas de Covid qui leur permet d'être présent dans ce tournoi. Sans présumer de rien, il y a très peu de chances de voir cette équipe du Burkina Faso exister dans ce premier quart de finale. Deuxième match, c'est le Zimbabwe justement qui est l'autre nation forte du continent. Ceux qu'on surnomme les Sables ont déjà été mondialistes en 87 et en 91 et ils devront résister à la surprise des phases de poule, la Côte d'Ivoire. Alors sur le papier, c'est le match le plus serré entre deux grandes nations africaines puisque ce sera le 35e mondial, le Zimbabwe, qui sera opposé au 40e mondial. Côté ivoirien, il y a certains joueurs qu'on connaît très bien, qui connaissent eux aussi très bien la France pour y jouer ou même pour y être né. C'est le cas de Paul Diallo, avec qui j'ai eu la chance d'évoluer, ou encore Oulaye Dion-Evrard, le joueur de Bayonne. Et le troisième match, là, ce sera cette fois un duel fratricide entre deux pays francophones, le Sénégal face à l'Algérie. D'un côté, l'Algérie, avec l'intégralité de son effectif qui évolue en France, avec des joueurs connus, comme Sofiane Tchela, Mathieu Loré, Mehdi Merabé, Benjamin Caminati. Mais attention, en face, le Sénégal a réussi l'une des performances les plus incroyables de tous les matchs de qualification, puisqu'ils ont dominé l'ogre kényan 20-19 avec un essai à la dernière minute. Et puis enfin, forcément, le Kenya sera dans le dernier match, le duel de prétendants entre l'Ouganda et le Kenya. Ces deux pays, c'est les éternels espoirs. On a toujours espéré les voir se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils ont souvent échoué d'un rien. Et ces deux pays qui rêvent de se qualifier pour leur première Coupe du Monde. Alors d'un côté, les grues ougandaises ne portent pas favoris, parce qu'en face, le Kenya a fait d'immenses progrès, notamment grâce à l'apport du rugby à 7. Et c'est un effectif qui évolue à 100% au Kenya, c'est l'effectif le plus cohérent. Donc le vainqueur de ce tournoi-là défiera deux nations majeures du rugby mondial, la France et la Nouvelle-Zélande, et surtout mettra son nom sur la carte de l'Afrique, quelque chose qui est assez rare pour être souligné. Et on espère évidemment que la Namibie, le Sénégal, l'Afrique, enfin globalement que les pays pourront sortir leur meilleur rugby sur un tournoi qui se déroulera en France.
Cher ami, spécialiste du rugby africain, là c'est quand même...
On va l'envoyer là-bas.
Ah, on va, bah,
ouais, qui est favori du coup? Parce qu'il y a une équipe qui se détache.
La Namibie, la Namibie, un petit peu.
L'Ouganda. Ça pour nous dire que la Namibie et l'Afrique du Sud vont disputer le mondial. Quoi.
Non, ça va être beaucoup plus sérieux que ce qu'on croit.
La Namibie, ils ont toujours eu des joueurs qui ont évolué dans le championnat sud-africain. Donc
oui, c'est un pays satellite de l'Afrique du Sud en quelque sorte.
Globalement, quand on voit que c'est un pays d'Afrique noire sans noir dans l'équipe, avec une tradition globalement très violente basée sur le défi et le combat.
Très africaneur.
Voilà, c'est une filiation très naturelle avec l'Afrique du Sud, mais c'est plus la grande Namibie qui roulait sur les autres pays africains. Il y aura vraiment match avec l'Ouganda, peut-être la Côte d'Ivoire. Ça va être un tournoi plus dense et plus serré qu'on...
Alors, on sait qu'en matière de football, l'Afrique est vraiment un continent en devenir. Et est-ce qu'il en est de même du rugby, ou on part de très loin, Manu?
Regardez l'Afrique du Sud.
Oui, et l'Afrique du Sud, c'est un épiphénomène au sein de l'Afrique quand même. C'est vraiment un bizarre part.
Bien sûr qu'il y a du potentiel, bien sûr qu'il y a des très bons joueurs, on le voit, puisqu'il y en a énormément en Fédéral 1, Pro D2 et Top 14. Rappelez-vous que notre ami Bakary Meïté joue pour la Côte d'Ivoire,
et qu'il écrit pour
notre célèbre chroniqueur de Rugby Rama. Il a mis un terme à sa carrière internationale cet été, mais je suis sûr qu'il va revenir pour jouer le Zimbabwe. Blague à part, oui, c'est un gros réservoir. On voit quand même qu'il y a de partout des joueurs africains qui est dans beaucoup de clubs, je l'ai dit, et c'est un continent en devenir vers qui il faut se tourner. Je suis sûr que cette Coupe du Monde peut être et ce tournoi peuvent être une belle exposition pour le rugby africain.
Vous pensez que ça rassemblera beaucoup de monde, que ça va passionner?
Ça dépend où tu vas jouer.
Ça dépend où tu les joues. On ne sait pas encore où ça se jouera.
Pas encore, mais imaginons le match entre le Sénégal et l'Algérie en région parisienne. Je peux vous garantir que peu importe le stade, les tribunes seront blindées parce qu'il y a une vraie appétence. Et faut souligner le travail de World Rugby pour le développement de certains pays depuis une vingtaine d'années, qui a été efficace, et l'apport énorme du rugby à 7, où on a pu pu voir le Kenya ou l'Ouganda qui ont réussi à vraiment des miracles en battant des équipes majeures de ce tournoi HSBC 7.
Mais c'est un vrai développement populaire ou c'est un peu artificiel tout ça?
Ah non, non, il y a une vraie appétence pour ce sport-là. Et puis c'est un sport de combat collectif. Il y a des pays comme le Sénégal où la tradition de la lutte est hyper intéressante et hyper importante. Et c'est des vrais pays où il y a évidemment le mélange.
Monsieur Amiche, hein.
Comment?
On joue au rugby, pas à la lutte, hein, s'il vous plaît. Arrêtez,
oui,
un peu, monsieur Amiche.
On dira ça à Oulaï.
Tu n'as pas parlé du Maroc, le Maroc.
Non, qui n'était pas présent dans ces phases de qualification. Ouais. La Tunisie, elle, a connu le Covid-19, elle n'a pas pu jouer, donc le Burkina Faso est qualifié. Et l'Algérie est le dernier
Maroc,
pays
avait
d'Afrique
avait
du Nord.
Il y avait de beaux joueurs au Maroc. Hein.
C'est vrai. Mais donc l'Algérie est le seul représentant de l'Afrique du Nord qui sera présent pour ce Final 8, avec beaucoup de Français.
Dedans. À suivre donc en juillet prochain pour ce tournoi de qualification Afrique qui donnera donc à son vainqueur le droit et l'honneur de disputer la Coupe du Monde dans la même poule que la France et la Nouvelle-Zélande. C'est quand même une sacrée belle carotte, ça. Hein.
Pas mal. Bon, ouais. Ça peut aussi finir en petite boost. mais quoi qu'il arrive, ce sera magnifique pour le pays qui arrivera à se qualifier. Ouais. Personnellement, j'espère que ce ne sera pas la Namibie, juste pour donner un peu de visibilité à d'autres pays que celui-là.
Participer à la fête.
Ouais, on a beaucoup moins entendu Wilfried Templier sur le rugby africain. C'est pas sa spécialité. Hein, on a
j'étais épaté comment Manu, il a pris une interro surprise, il a balbutié au début, il est parti derrière, il s'en est sorti, mais il s'en est sorti. Tu vois, je parlais de pirouette tout à l'heure, il a été magnifique.
Je vous ai fait respirer, là, vous avez vu l'air africain, là, vous avez voyagé avec moi. Je vous ai amené en Afrique du Sud d'abord, après on a fini en Côte d'Ivoire, et je vais vous dire une chose. Ouais. Je souhaite qu'une chose, c'est que ce soit la Côte d'Ivoire. Non pas pour
Il y a un gros travail en Côte d'Ivoire.
Franchement, et puis tout simplement parce que il y a des 1995, tout ce qui s'était passé.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais. Avec l'accident dramatique.
Exactement.
Très bien, messieurs. Ouais. Ben, nous allons pouvoir réviser notre rugby africain d'ici le mois de juillet. On a quand même un spécialiste avec Pierre, mais j'espère que vous serez tous au même niveau que lui en juillet prochain. Merci les garçons. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux. Bonne semaine à tous. Ciao.